Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée de la faculté de philosophie du Centre Sèvres pour entendre cette affirmation, cette question. Et si Aristote revenait, que dirait-il de la situation que nous connaissons, en particulier sur le transhumanisme? Donc je suis très heureux d'accueillir Laura Rizzerio ce soir pour venir nous parler. Elle vient de l'université de Namur. Donc avant de la présenter davantage, cette soirée est aussi dans le cadre d'une série d'échanges entre le Centre Sèvres et l'université de Namur. Et notamment, nous sommes en train de travailler ensemble avec une université à Cracovie, dont un des représentants est ici, sur un projet de réflexion philosophique sur l'anthropologie et en particulier sur les questions de vulnérabilité. Et à ce propos, il y a un grand colloque aura lieu, organisé par Laura Rizzerio, sur le rapport entre identité et vulnérabilité. Et le rapport entre vulnérabilité et autonomie. Donc, tous des thèmes qui sont dans les domaines de recherche actuels de Laura Rizzerio. Alors, pour la présenter en quelques mots, son premier domaine de recherche, c'est la question du rapport entre ces deux grands types de rationalité, que sont d'une part la rationalité logique et scientifique, et d'autre part, une rationalité plutôt de type pratique. Et la question de l'articulation de ces deux rationalités, principalement dans les philosophies antiques et médiévales. Au cours de ses recherches, Laura a été amenée aussi à s'intéresser aux questions esthétiques et de l'art. Et puis depuis 7 ou 8 ans maintenant, plus particulièrement aussi sur les problématiques de la vulnérabilité, en particulier en lien avec l'éthique du soin. Et puis je signale aussi une publication sur la question de la fantasia et une autre sur la question du jugement pratique, la phronesis. Voilà, chez Aristote. Donc nous allons vous écouter pendant à peu près une heure, et puis ensuite nous aurons une heure pour échanger tous ensemble. La soirée se terminera au plus tard à 21h15.
Voilà, merci beaucoup, Guilhem, pour ces mots et cette présentation. Une petite précision, je ne pourrais pas organiser un colloque sans l'aide de mon collègue Guilhem. Donc voilà, ce n'est pas moi qui organise, mais nous organisons. Et c'est un beau projet en commun entre trois institutions jésuites. Et je suis très très contente que notre université le porte pleinement. Donc voilà, on vous fera avoir les programmes, il va sortir bientôt, comme ça, éventuellement. Paris n'est pas si loin de Namur. Il y aura même une ligne directe maintenant. À partir de la semaine prochaine, il y aura un nouveau Paris-Namur. Et donc, voilà, vous pourriez... C'est un peu plus lent, mais finalement, tout compte fait, peut-être plus court même qu'en faisant le tour par Bruxelles. Et donc, vous pourrez facilement rejoindre Namur pour venir à notre colloque. Voilà, c'est pas ça. Merci d'être là. Je suis un peu intimidée de vous parler de ce sujet. Et en même temps, ça me passionne. Et la question que je pose, et si Aristote revenait, n'est pas de la pure rhétorique. Je me pose cette question très souvent. Donc, si Aristote revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Qu'est-ce qu'il pourrait nous conseiller de faire? Lui qui a vécu aussi dans une situation qui était une situation de crise. Il ne faut pas oublier, Aristote vit à Athènes au moment où Athènes vit sa défaite. D'ailleurs, petite anecdote d'histoire, mais Aristote a été chassé de la ville d'Athènes, donc il a dû s'exiler, après il est mort peu après, mais il a dû s'exiler de la ville d'Athènes parce que il avait été accusé d'avoir trop bien instruit celui qui avait envahi la Grèce et avait soumis Athènes, hein, Alexandre le Grand. Donc Aristote avait été précepteur d'Alexandre le Grand, et quand Alexandre le Grand soumet Athènes à son empire, les Athéniens chassent Aristote, l'accusant d'avoir contribué à cette défaite. Donc Aristote vit dans une période de crise, et il se pose des questions qui ne sont pas si différentes de celles que aujourd'hui nous nous posons face à la situation qui est la nôtre dans notre société multiculturelle, par exemple. Mais ça, c'était une introduction non prévue, mais peut-être qui va nous permettre d'entrer en matière. Donc, j'ai préparé un texte que je vais essayer de lire pour être la plus claire possible, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit vivant quand même. Et alors, je couperai si c'est trop long, évidemment, et parfois je vais résumer. Alors, j'ai un PowerPoint juste parce que j'ai quelques textes et quelques images un peu peut-être inattendues comme celle-ci. Et je vais commencer par ces pantins, hein, donc, parce que je me dis qu'aujourd'hui, construire un automate qui ressemble à un humain, pour commencer avec le transhumanisme et interagir avec lui, hein, cette construction a sans doute été les rêves de l'homme depuis toujours. À l'époque d'Aristote, Aristote aussi parle des automates. Et peut-être même les rêves, notre rêve, les rêves de l'enfant que nous avons été. Alors, une preuve de ce rêve est le succès de cette histoire, l'histoire de Pinocchio. Ce pantin inventé par Collodi, un auteur florentin du XIXe siècle, qui a fasciné tant d'enfants. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, mais dans l'histoire, il s'agit de Geppetto, hein, qui voit s'animer sous ses yeux la bouche de bois qu'il est en train de travailler et de laquelle surgit finalement un joli pantin aux traits d'enfant. Né ainsi peut-être le premier robot humanoïde de la littérature. Dans les récits, Collodi fait passer Pinocchio par de nombreuses aventures en vue de prouver au lecteur qu'un tel pantin ne pourra jamais être considéré comme un humain. Du moins, jusqu'à ce qu'il devienne capable d'agir en faisant la différence entre ce qui est de l'ordre du bien et qu'il faut choisir et ce qui relève du mal et qu'il faut éviter. Au fil de ces aventures, alors pour ça, hein, il y a le fameux criquet, qui est la conscience de Pinocchio, conscience qui est extérieure à lui, et puis au fur et à mesure du récit, cette conscience s'intègre jusqu'au point où Pinocchio, effectivement, arrive à s'humaniser. Hein, donc Pinocchio va s'humaniser grâce à la fée qui l'humanise tout à la fin, parce que il prouve à lui-même et à ses proches qu'il peut reconnaître le bien et le poursuivre. Notamment, il vient au secours de son père qui a été englouti par la baleine pendant qu'il était occupé de le chercher, lui qui avait disparu à cause du fait qu'il avait quand même mal choisi. Mais à la fin de l'histoire, donc, Pinocchio est humanisé grâce au fait qu'il est capable de vouloir le bien et de montrer l'empathie à l'égard des autres. Et donc, il devient finalement, à la fin de l'histoire, un véritable enfant. Cette histoire, qui est passionnante, et il y a eu des commentaires même théologiques, et puis c'est une histoire qui a bercé mon enfance. Tous les enfants italiens lisent Pinocchio au moins une fois dans leur vie. A été reprise en 2004 dans un film qui porte comme titre « Pinocchio et les robots ». Et qui voit les pantins évoluer dans une ville du 4e millénaire complètement robotisée. Or, cette histoire me semble, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette histoire, me semble significative du rêve humain par rapport aux automates humanoïdes, mais aussi de la conscience de ce qui, dans ce rêve, constitue l'essence de l'humain. la capacité de choisir entre les biens et les mals et d'agir moralement. Alors, ce qu'il faut encore noter, pour rester sur cette histoire encore un moment, c'est que dans le récit, Collodi montre bien que Pinocchio possède, depuis le départ, toutes les fonctionnalités d'un enfant. Il est capable d'apprendre, la première chose qu'il fait, c'est d'aller à l'école. Il a des préférences, c'est la fameuse histoire des poires, hein, il n'aime pas la peau et il écarte, puis parce qu'il a faim, il mange la peau après avoir épulché la poire. Il éprouve des émotions et des sentiments, parce que tout de suite, dès qu'il est là, dans l'atelier de son maître, de Geppetto, il a faim et il a froid. Mais cela ne suffit pas à faire de lui un humain. C'est seulement, nous dit Collodi, lorsqu'il intègre la capacité de distinguer les biens et les mals, qu'il peut accéder à l'humanité, et que de fait, cela lui arrive comme un don. C'est la fée qui lui apporte l'humanité. C'est celle-là la conviction de Collodi et il la confie à son histoire déjà au XIXe siècle. Aujourd'hui, les sciences psychologiques et neurologiques, l'ingénierie génétique, l'informatique et les nouvelles technologies ayant progressé dans le domaine de la construction des machines intelligentes, les rêves de Collodi s'actualisent de plus en plus. Et d'une certaine manière, bien que mutatis mutandis, nous pourrions dire que les débats à propos de ce qui rend humaine une intelligence, est-ce la conscience, les émotions, la capacité de se représenter la réalité, la capacité de synthèse, donc ce débat à propos de ce qui rend humaine une consciente se présente dans des termes analogues, me semble-t-il, à celui que Collodi envisageait déjà en écrivant l'histoire de Pinocchio. Nombreux sont ceux qui pensent, tout en les redoutant en même temps, que le développement de l'intelligence artificielle est possible et que cette intelligence atteindra un niveau tel que celle-ci pourra surpasser l'intelligence humaine. C'est le fameux mythe de la singularité. La controverse à propos de cette ère de la singularité est d'ailleurs alimentée par la création massive de récits qui décrivent un monde où les robots humanoïdes recouvrent l'humanité et deviennent plus forts que les hommes en s'évengeant de ceux qui les ont créés. Nombreuses séries, notamment la série Westworld, pour qui l'a regardé, mais aussi beaucoup de films, par exemple un film avec Johnny Depp, Transcendance, ou bien le film qui vient de ressortir en version 2, Blade Runner. Il y a eu la version 1 et puis maintenant la version 2 qui vient de sortir. Au cœur de cette controverse sur les potentialités effectives de l'intelligence artificielle, l'opinion publique commence cependant à se demander avec insistance si les transformations auxquelles les technologies vont conduire la société sont à accueillir avec joie et espérance pour les améliorations qu'elles peuvent apporter à la vie des individus et de la société, ou d'où l'image que vous voyez, s'il faut s'en méfier et en avoir peur, comme d'instruments qui finiront par détruire l'humanité. Et les débats s'engagent alors à propos de ce qui est l'humain et de ce qui peut réellement contribuer à l'améliorer sans le détruire. Or, face à ces questions, il m'a semblé qu'Aristote, philosophe vivant à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait encore quelque chose à nous dire. Alors, d'une part, je vous l'ai déjà dit, parce qu'Aristote aussi, à sa manière, s'est posé la question des automates. Il s'est demandé quelle était la différence entre un automate et un vivant, ou si vous voulez, un animé. Je vous expliquerai après pourquoi j'utilise ce terme, qui traduit le grec « zoon ». Il s'était demandé quelle est la différence entre les mouvements d'un automate et les mouvements d'un animé qui est capable de s'automouvoir. Et donc, dans les politiques, en plus, dans son traité Les Politiques, il va se demander que si on avait la possibilité de développer davantage des automates, on n'aurait plus besoin des esclaves. Donc, évidemment, il s'est posé la question. Et donc, il se pose la question de savoir quel est le statut qu'il faut leur attribuer. Il va jusqu'à dire qu'ils peuvent remplacer les esclaves. D'autre part, Aristote est pris souvent par les tenants du transhumanisme comme un modèle à suivre, en ce qu'il a placé la contemplation, la théoria, au sommet des modes de vie, en laissant penser que l'humanité s'accomplirait dans la vie de l'intelligence. On peut lire Aristote dans ce sens-là, parce que si on lit à la fin de l'éthique à Nicomaque, c'est pas très clair, peut-être bien qu'Aristote pensait que le bonheur suprême, c'était cette vie contemplative qui est finalement une vie qui pourrait être, je ne dis pas que c'est Aristote qui l'a pensé, mais qui pourrait être interprétée comme une vie détachée de tout ce qui fait une vie corporelle normale, mais ce serait une vie de l'intelligence, où ce qui est le plus important, c'est la contemplation. Et donc, je me suis dit, ben voilà, alors Aristote, peut-être, j'ai oublié de vous montrer les automates. Voilà, les automates antiques. Voilà l'automate dont je vous parlerai tout à l'heure, dont Aristote parle. C'est un petit chariot qui servait pour aller dans les temples et transporter les offrandes des dieux d'une façon automatique. Il y avait tout un système d'ingénierie avec les roues que vous voyez là, et des poulies, des poids, qui faisaient que le chariot pouvait avancer, reculer, et si il y avait moyen d'enrober autour de poulies, enfin le fil de différentes manières, et il y avait moyen aussi de donner aux roues tout à fait d'une façon automatique, grâce à cet enroulement, une direction différente, et donc les chariots allaient aussi, pouvaient aller pas seulement en avant, en arrière, mais aussi latéralement. Donc c'était, ils pouvaient s'arrêter et puis revenir en arrière. Donc c'était vraiment un automate ancien. Donc voilà, si Aristote revenait, alors ce que je viens de vous dire était un peu l'introduction. Et voilà quel est le plan de mon intervention. Je vais commencer par dire un tout petit mot sur ce que je pense, enfin sur ce que, comment est-ce que je comprends le transhumanisme, ce qui me semble problématique, enfin problématique en tout cas à questionner. Et puis la réponse qu'Aristote donnerait, en traitant surtout de la définition l'homme comme animal politique, qu'est-ce que cela veut dire? Alors peut-être le chapitre sur les mouvements, on va peut-être le laisser de côté. Et puis la conclusion. Alors. Je ne vous anticipe pas, évidemment. Alors, premier point, qu'est-ce que le transhumanisme? Alors, donc, je suis sûre que je suis dans un auditoire où il y a des spécialistes de la question, donc je ne m'aventure pas, c'est une question extrêmement complexe, mais je vais juste souligner deux ou trois petites choses que je vais relier après à ce que je vous dirai sur Aristote. Alors, pour faire bref, on pourrait dire, vous voyez là les trois, trois personnages qui sont des personnages clés de la théorie transhumaniste. Tout en haut, c'est Max Moore, puis vous avez Nick Bostrom, et puis l'épouse de Max Moore. C'est ceux qui ont un peu, enfin, il y en a d'autres qui ont théorisé et qui théorisent, mais voilà, ce sont les auteurs. Max Moore, et c'est lui qui a écrit. La lettre à Mère Nature, disant, c'est une lettre qui est intéressante à lire, disant, Mère Nature, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné, mais tu nous as fait imparfaits. Donc maintenant, on va essayer de devenir parfait en te dépassant, enfin, en te laissant de côté. On va nous-mêmes essayer par nos propres forces de faire ce que tu nous as pas donné, la perfection et donc l'immortalité. Alors, on pourrait dire que les rêves transhumanistes, si on peut appeler cela rêve, ou disons, sans donner un jugement, les transhumanismes, coïncident avec les rêves, cette fois-ci, de quitter la nature humaine, considérée comme trop vulnérable en l'état, pour permettre à l'homme d'accomplir le travail de sa construction ultime. Ça, c'est les expressions utilisées par Max Moore dans la lettre à Mère Nature. Autrement dit, on pourrait dire que les objectifs que les transhumanismes jugent comme fondamentaux, vous les connaissez tous, je les répète brièvement, faire reculer la vieillesse, vaincre la mort, élever la capacité sensorielle, étendre la mémoire, augmenter les capacités du cerveau pour les rendre plus intelligents, plus aptes à la maîtrise de soi et de ses propres émotions, et plus conscients. Prendre les implants, par exemple, sert à ça. prendre en charge les programmes génétiques pour permettre à chacun de choisir sa forme corporelle. Nick Bostrom, voilà, je vous laisse lire en anglais, je ne les lirai pas, hein, revient sur le terme transhumanisme, terme qui a été inventé par Huxley, et laisse entendre que ce terme correspond précisément à l'idée que l'humanité en son ensemble puisse transcender sa propre nature et que l'homme puisse réaliser de nouvelles possibilités de sa nature en vue de s'accomplir pleinement. Alors, dit comme ça, d'une façon très succincte, je vous l'avais dit, on pourrait dire, donc j'ai mis ici la photo du petit livre qui est votre collègue et confrère Xavier Dijon a écrit sur le transhumanisme. C'est un livre qui est très facile d'accès pour vraiment monsieur tout le monde, comme moi. Et je trouve que c'est un livre extrêmement éclairant. Donc, je l'ai mis là pour en faire la publicité. Alors, je me suis demandé, mais quels sont les présupposés, et je dis implicites, de ce rêve transhumaniste, donc de ce que nous venons d'entendre. Est-ce que ce que le transhumanisme propose est réaliste? Alors, répondre à ces questions, évidemment, n'est pas du tout facile, et je dirais, c'est même un peu osé de poser les questions de la sorte, parce que toujours, la réalité est extrêmement complexe, et donc on ne peut pas dire c'est blanc ou noir, c'est oui ou c'est non. Donc moi, je n'aime pas, et d'ailleurs, Aristote m'a enseigné que c'est pas bon de faire ça. Mais je voudrais ici essayer d'avancer un peu dans mon raisonnement en mettant en avant peut-être deux thématiques qui me semblent présupposées. Donc, de fait, non fondée, mais aussi présupposée à ces raisonnements, donc non dites, et donc autant les mettre en évidence. Et la lecture de Xavier Dijon m'a aidée à aller dans ce sens-là. Premier point, c'est le rapport de l'homme à l'histoire. Le transhumanisme veut en finir avec l'idée de l'histoire comme lieu de transmission d'un patrimoine. Il veut sortir de la configuration de l'histoire comme magistra vitae. Il veut plutôt penser l'histoire, y compris l'histoire de l'homme, dans les contextes larges de l'évolution et comprendre l'humanité comme un maillon du processus de transformation de la matière, maillon dans lequel celle-ci, la matière, évoluerait inlassablement vers des formes de plus en plus complexes jusqu'à l'émergence de l'esprit, de l'humain et puis au-delà du post-humain. Donc le post-humain serait comme la conclusion, en fait, d'une évolution continue dans laquelle il y aurait cette abolition de l'idée d'une histoire comme transmission. Mais donc, dans l'idée de l'histoire comme transmission, il y a la récupération du passé pour un présent, mais il n'y a pas une transformation continue vers un progrès nécessaire. Cette position transhumaniste est matérialiste, me semble-t-il. Et dans cette position, l'histoire en tant que construction de l'homme disparaît pour laisser place à l'idée d'une histoire comme un processus évolutif continu. Alors, la conséquence, cela est présupposé, non dit, mais ça me semble, au fond, un élément fondamental qui conduit alors à la disparition, et c'est ça qui m'intéresse, me semble-t-il, de toute référence à une nature, à une essence, à une possibilité de transcendance par rapport à ces processus d'évolution de la nature ou de la matière. Donc il ne reste plus la possibilité qui est présente encore dans l'histoire telle que nous la concevons de transcender, c'est-à-dire de pouvoir interrompre, si vous voulez, ce processus d'une manière ou d'une autre et d'en faire autre chose qu'un processus qui procède. Donc d'en faire justement une histoire. Et c'est clair que le problème de la nature, de la référence à quelque chose qui limite le processus devient problématique. Et deuxième point, me semble-t-il, c'est cette identification qui est toujours dite, mais peut-être pas justifiée, entre l'idée de l'augmentation et l'idée de l'amélioration. Cette idée est donnée comme identique. Or, qu'elle soit identique, c'est pas une nécessité, il faut pouvoir le prouver. Mais s'il est vrai, et l'expérience nous le montre, que le développement des technologies a permis une sérieuse amélioration des conditions de vie des hommes sur Terre depuis plus d'un siècle, hein, Napoléon allait à cheval, hein, début du 19e siècle, et quand nous sommes nés, les GSM n'étaient, et donc nous ne sommes pas encore décédés, donc nous sommes encore en vie, mais les GSM, l'ordinateur n'existe pas. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est clair que le progrès de la technologie a été vertigineux et que cela nous a aidé beaucoup. Honnêtement, c'est une amélioration. Mais on ne peut pas dire que cela constitue une amélioration sans point d'arrêt. Hein, et même, il y a des situations, des questions, des situations de crise qui constituent des freins certains à cette amélioration, si on la prend comme ça. Des problèmes comme l'augmentation de la pollution, la surconsommation, la mondialisation de l'économie, des conflits liés à la volonté de s'emparer et d'exploiter les ressources, la dégénérescence de ces mêmes conflits soumis à des armements de plus en plus sophistiqués et automatisés, et ainsi de suite. Donc, de plus, il y a des questions éthiques qui se posent et qui sont de plus en plus prenantes et qui vraiment nous interrogent sur l'identification entre l'augmentation, le développement technologique et l'amélioration. Cela ne va pas si on ne peut pas nier le confort que la technologie nous apporte, pas seulement un confort immédiat, mais le confort et l'amélioration des conditions de vie. Nous ne pouvons pas dire que nécessairement cette amélioration correspond, que cette augmentation, cet progrès correspond nécessairement à une amélioration. Donc aujourd'hui, nous sommes tous touchés par les changements climatiques qui sont une conséquence, entre autres, de cette augmentation et de ce développement technologique. Donc, là aussi, cette identification me semble un présupposé qui est affirmé, mais pas justifié. Si on regarde de près, tous ces, enfin, ces présupposés, ou en tout cas ce qu'on vient de dire, me semble-t-il que ce qu'on pourrait mettre en évidence, c'est une question, ou bien une mise en question de tout ce qui est de l'ordre de ce que nous avons toujours compris sous les termes de la nature. Nature de l'homme, nature tout court. Hein, c'est-à-dire de ce quelque chose qui, d'une certaine manière, déterminerait l'essence d'un être, lui conférant des caractéristiques propres, limitées, fixes, et qui donc seraient d'une certaine manière non conciliables immédiatement avec cette vision un peu matérialiste d'une évolution continue qui irait vers une transformation progressive de l'humain vers un post-humain. Alors, il me semblait que s'il y avait un point sur lequel Aristote me semblait intéressant, en tout cas sur lequel Aristote pourrait entrer en dialogue avec cette perspective transhumaniste, est justement cette question de la nature. Et cela, me semble-t-il, pour deux raisons. La première, c'est parce que Aristote tâche de définir la nature de l'homme, mais la nature tout court, à partir, et disons, concentrons-nous sur la nature de l'homme à partir de ce que l'homme est en lui-même, s'étenant à l'écart d'une quelconque référence à une transcendance. Autrement dit, Aristote ne va pas dire « la nature humaine est une nature fixe parce que quelqu'un l'a mise en place telle qu'elle ». Et je dirais, c'est caricatural, me semble-t-il, de faire dire Aristote qu'Aristote a défini la nature l'identifiant avec la forme, pour ceux qui connaissent Aristote un peu plus dans les détails. Donc, je vais essayer de vous montrer que cela ne fonctionne pas bien chez Aristote. Et puis, donc, de ce point de vue-là, me semble que sa parole pourrait résulter audible aujourd'hui dans une culture qui a majoritairement coupé les liens avec la figure d'un dieu ou d'une transcendance qui serait comme les garants de l'existence d'une essence ou d'une nature attribuée d'emblée à l'homme, par exemple. Et en second lieu, et voilà l'autre point qui me semblait intéressant et celui que je vais surtout développer, que d'un point de vue biologique, la pensée d'Aristote, si on la regarde bien, est plutôt continuiste. Donc, si vous voulez, plutôt dans le sens plutôt d'une sorte de continuité entre tous les éléments de la nature. Et cela est plutôt en phase avec le transhumanisme. Donc, si Aristote propose une définition de la nature, une définition de la nature de l'homme en les distinguant des autres vivants, hein, les animés, comme je les appellerai, les zoa, il ne le fait ni d'une façon dogmatique, disons par un principe de raison, ni en niant la continuité existante entre tous ces vivants. Il le fait plutôt, et c'est ce que je vais vous montrer, sur le terrain de l'éthique et de la politique, en montrant sur la base de l'expérience que l'homme est capable de développer une vie éthique et politique ayant comme visée la réalisation du bien. Et j'anticipe, hein, ça sera un peu mon développement, mais comme ça je reviens et ça sera, j'espère, plus clair. C'est sur ce point-là que Aristote va dire « ça, c'est l'homme, et ce n'est pas les autres vivants ». Ce n'est pas sur le plan biologique, ni sur le plan morphologique. Donc, à la limite, ce n'est même pas la question de la morphée, et puis après, de la forme. Donc, cette manière de définir la nature humaine m'a semblé intéressante, et j'ai décidé donc de vous la présenter. Mais qu'est-ce qu'est l'homme pour Aristote? Alors, qu'est-ce qu'est l'homme? Qui est l'homme? La question est compliquée, donc ce n'est pas facile de répondre à cette question. Et donc, je vais vous montrer deux aspects, ou si vous voulez, Aristote donne une réponse à la question, mais formulée suivant deux aspects, comme si regarder cette réalité complexe qu'est l'homme de deux points de vue, et il nous illustre les deux points de vue. Et c'est intéressant de les explorer tous les deux. Dans les traités de biologie, Aristote ne semble pas se préoccuper de la nature humaine, comme si ça ne l'intéressait pas. Au niveau biologique, l'homme, l'anthropos, est pour lui un animé, zoon, comme les autres, qui partage ressemblances et différences avec tous les autres animés, suivant une organisation du vivant que nous pourrions dire continuiste. Donc, on pourrait définir l'homme comme un bipède, comme le poulet, apprivoisé, c'est Aristote qui le dit, comme les mulets ou les bœufs. Il vit en société comme les abeilles. Il possède un moyen de communication, la voix, comme les oiseaux. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, l'homme ne se distingue pas. Il a des caractéristiques qui sont semblables à celles d'autres animaux, d'autres zoas. Dans les traités d'éthique et de politique, par contre, la question de savoir qui est l'homme, s'il diffère des autres zoas, les autres animés, se fait pressante pour lui, car dans ces traités, Aristote regarde l'homme en tant qu'il est capable de discerner les biens et les mâles. Et il se rend compte qu'il est le seul animé, zoon, à posséder les logos. Cette caractéristique, et je vais là aussi vous le montrer, n'est pas à identifier avec l'intelligence. Mais pour Aristote, cette caractéristique est ce qui permet à l'homme de dépasser les limites dans lesquelles l'ordre de la nature l'a situé, soit par les hauts, par la vertu en accomplissant les biens, soit par les bas, par les vices, en choisissant ce qui est mauvais. Autrement dit, l'homme est le seul animé qui peut accomplir sa nature en se perfectionnant jusqu'à obtenir la vie heureuse et presque à arriver à être semblable aux dieux, mais aussi les seuls qui risquent d'échouer sur les chemins de ce même accomplissement en tombant plus bas que les bêtes. Et donc, la caractéristique logique du logos de l'homme est pour Aristote ce qui lie l'homme à cette possibilité de délibération par rapport au bien à choisir et au mal à éviter. C'est autre chose qu'il identifie avec la seule intelligence, si nous l'entendons comme l'intelligence qui calcule, l'intelligence contemplative. Ici, il s'agit de l'intelligence pratique. Alors, la définition qui résume bien cette expression-là, c'est de dire que l'homme, donc à la fois qui résume le point de vue du biologiste et le point de vue des laititiens, c'est la fameuse expression que vous connaissez tous, l'homme est un animal politique. Cette expression est une expression bateau, c'est peut-être la seule chose que tout le monde connaît d'Aristote, c'est qu'il a défini l'homme comme l'animal politique. Mais ça veut dire quoi, que l'homme est un animal politique? Je vous ai mis là quelques visages d'interprètes d'Aristote, Martha Nussbaum, dont je vais peut-être parler, Francis Wolff, qui était votre voisin jusqu'à il y a peu de temps, c'était le professeur qui enseignait la philosophie ancienne à l'école normale, aujourd'hui émérite. Et puis vous avez Jean-Louis Labarrière, encore un Parisien très connu peut-être que vous connaissez. Il y a encore un autre Parisien, Pierre-Marie Morel, qui a beaucoup travaillé sur la question des animaux et du rapport à l'homme-animal. Et donc tous ces spécialistes cherchent à comprendre ce que cette expression signifie et ils ne sont pas très 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 unanimes. En tout cas, montrent que dire que l'homme est un animal politique est loin de dire quelque chose de clair. Donc, quand on a dit que l'homme est un animal politique, on n'a encore rien dit, autrement dit, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est un animal? Alors, en grec, on peut trouver trois termes déjà pour décrire ce que nous attendons. Parce qu'en plus, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire. Nous utilisons les termes animal. Et quand je dis animal, peut-être que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est votre chat domestique, ou votre chien, ou l'oiseau, ou les poissons rouges, ou bien, si vous aimez les gros animaux, l'éléphant, ou je ne sais pas, mais c'est ça à quoi on pense. Moi, je pense quand on me dit animal. Hein. Donc, pour, disons, dire animal, les Grecs ont trois termes. Le premier est thérion. Mais thérion est le terme peut-être qui ressemble le plus à notre animal, mais c'est seulement l'animal sauvage en grec. Donc l'animal domestique, les chevaux, les bœufs, les chiens, les chats, ne rentrerait pas dans cette catégorie. Donc on ne peut pas dire que thérion décrit ce que nous disons aujourd'hui l'animal. Et puis on a un autre terme qui est hemsukon, qui signifie celui qui est doté de souffle et qui est donc vivant, mais évidemment... Dans le langage d'Aristote, Emsukon, c'est aussi l'homme, mais aussi ce qui est de l'ordre divin. Les âmes peuvent être caractérisées par cet adjectif. Et puis, il y a ce fameux terme, zoon, qui a affaire avec la racine de la vie, donc indique les vivants. Mais à nouveau, c'est un terme très général qui décrit toutes sortes de vivants, les plantes, ce que nous appelons les animaux, les hommes, les dieux. Donc, zoon, c'est un terme très très large qu'on ne peut pas traduire, me semble-t-il, par notre animal. Si par animal, nous entendons quelque chose de très restreint. Donc, j'ai choisi, comme fait Francis Wolff, de traduire systématiquement zoon par animé, c'est-à-dire qui possède une vie. En tout cas, donc ce terme zoon, comme les autres, ne servent pas pour séparer dans la manière d'utiliser ce terme, pour séparer ce que nous appelons l'homme et ce que nous appelons l'animal. Donc, ce terme est un terme générique qui ne nous sert pas pour définir davantage l'homme, soit en les séparant de l'animal que nous entendons, soit pour l'assimiler à lui. C'est un terme plutôt générique. Alors, si on va regarder les traités de biologie d'Aristote, pour comprendre ce que Aristote veut dire alors quand il parle du zoon politikon, c'est ça l'animal politique, c'est un zoon politikon. On peut aller regarder les traités de l'Aristote biologiste, alors l'histoire des animaux, essentiellement, mais aussi les traités de l'âme. On pense que le traité de l'âme est un traité qui parle de l'âme humaine, mais c'est pas le cas. Aristote, dans les traités de l'âme, parle de l'âme, c'est-à-dire de tout ce qui anime les vivants. Et là, il va parler des plantes, il va parler de ce que nous appelons les animaux, et puis il va parler des hommes, et puis il va parler des âmes en général. Et donc, dans ce traité, qui n'est pas du tout un traité de spiritualité, mais c'est un traité qui est classé parmi les œuvres d'Aristote, qui sont encore les œuvres du naturaliste, c'est-à-dire du scientifique. Dans ce traité, Aristote choisit de classer les zoas, les vivants, par la distinction des facultés de l'âme. Et donc, la faculté végétative appartient seulement à ces vivants qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas mouvoir, sont les plantes, qui n'ont que une vie, un processus vital tout à fait automatique. Puis, il dit, il y a des vivants, des zoas, qui possèdent aussi une faculté sensitive. Et cette faculté sensitive, qui comprend aussi la végétative, est pour Aristote étendue jusque à l'imagination, la fantasia. Donc, la capacité représentative. Aristote dira dans un autre traité que les animaux ont des sentiments parce qu'ils peuvent se représenter d'une certaine manière la réalité. Donc, ils peuvent apprendre aussi grâce à cette représentation. Et puis, il y a une faculté qui est plutôt intellective et qui donc est réservée à ce que nous appelons les hommes, si vous voulez, ou les âmes intelligentes. Mais les âmes intelligentes, ça peut dépasser les hommes, hein, Dieu étant l'intelligence pure. Donc, vous voyez bien que par ces classements, Aristote ne sépare pas, hein, et les frontières sont floues en plus, hein, parce que la sensation est une caractéristique humaine aussi, et donc là aussi, il n'y a pas vraiment, il y a une sorte de continuité plutôt entre les vivants qu'une sorte de continuité, de discontinuité. En tout cas, il n'y a pas une volonté essentialiste de séparer les vivants par une essence qui les caractériserait d'une façon limitée du point de vue de leur biologie. Dans un autre traité qui est l'histoire des animaux, ou ça serait mieux de dire l'histoire des animés, hein, Aristote choisit de classer les zoas, les animés, suivant leur mode de vie, leur activité, leur caractère, le fait qu'ils présentent ou pas des organes, etc. Alors, par exemple, dans le premier livre, il dit « Les zoas sont répartis en aquatiques d'une part et en terrestres d'autre part, classement par les modes de vie. Les aquatiques sont répartis en deux sous-ensembles suivant les activités qui leur sont propres, ceux qui vivent nécessairement dans l'eau, les poissons, et ceux qui vivent dans l'eau mais qui respirent l'air. Les oiseaux, les mammifères marins, et ainsi de suite. Et puis encore, ceux-ci sont répartis suivant leurs différences d'organes. Car, dit-il, parmi les animaux qui vivent dans l'eau et respirent l'air, il y en a qui ont les pieds et il y en a qui ont des ailes. Et la même opération, il la répète pour les animaux terrestres. Ou, si vous voulez, pour les animés terrestres. Et c'est là, c'est intéressant, qu'il introduit déjà une petite idée du politikon, hein, c'est intéressant parce que nous sommes dans les traités de l'histoire des animaux, donc nous sommes dans des traités de biologie, et il dit, dans les classes qu'on peut, enfin les divisions qu'on peut faire entre les animés, vous voyez, les animés ne sont pas dans une classe, après c'est flou parce que certains qui ont les pieds peuvent être dans un ensemble, puis ceux qui ont les ailes dans un autre ensemble, mais il y en a qui sont encore dans un autre ensemble pour d'autres raisons. Donc, disons, c'est des vases communicants, ces ensembles. Et alors, il dit, ben, il y a un autre classement possible, c'est entre l'animal qui vit isolé, sporadicon, et l'animal qui vit en communauté, politikon. Et l'homme est alors classé parmi les zoa politica, ou si vous voulez, comme un zoon politikon, dans les mêmes ensembles que, tenez-vous bien, les abeilles, les grues et les fourmis. Donc, ces termes zoon n'est aucunement opératoire dans ces classements, ni pour définir l'homme, ni pour définir les animaux comme étant distincts de l'homme. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'animal chez Aristote en biologie. On pourrait conclure ainsi. Et donc, l'homme peut se retrouver tantôt dans la même classe que les fourmis et les abeilles, tantôt dans celle du cochon ou du cheval, parce que dans ces cas-là, il est apprivoisé et non sauvage comme les cochons et les chevaux. Donc, comme il dit, l'âne, je cite, les mulets sont toujours apprivoisés, la panthère et les loups sont toujours sauvages, d'autres peuvent être rapidement domestiqués comme l'éléphant, mais tous les genres qui sont apprivoisés se rencontrent également à l'état sauvage, comme les chevaux, les bœufs, les cochons et les hommes. Donc, Francis Wolff conclut alors que dans la zoologie et la biologie aristotélicienne, il n'y a pas moyen d'identifier les zoons avec un genre permettant de distinguer de façon systématique et suivant une hiérarchie des sens l'homme des autres animaux et certains animaux entre eux. Et la raison est simple, c'est que, comme le dit dans ces deux textes, je vais en lire un seulement, Aristote dit dans l'histoire des animaux, la nature passe graduellement des êtres inanimés aux animés de telle façon qu'en raison de la continuité, la ligne de démarcation qui sépare les uns des autres est insaisissable et qu'on ne peut déterminer auquel des deux groupes appartient la forme intermédiaire. Vous direz, mais jusqu'ici, Aristote est parfaitement d'accord avec les transhumanistes tels que je les ai présentés comme ceux qui pensent finalement que tout évolue dans une sorte d'évolution pérenne et continue de la matière d'un état initial vers des stades de plus en plus complexes et parfaits. Alors, Aristote ne va pas dire, pas parler de cet perfectionnement. Il va affirmer un continuisme, mais pas l'idée d'un perfectionnement qui serait progressif et on passerait d'un stade à l'autre. Mais il va plutôt insister, on le verra après quand il parle aussi de l'homme, sur le fait que chaque zoon, par la nature qui lui est propre, parce qu'il en a bien quand même une, et que pour l'instant Aristote a distingué avec ces ensembles descriptifs, mais cela les ramène quand même à quelque chose qui est propre à chaque groupe de vivants ou d'animés, eh bien, chaque groupe va pouvoir se perfectionner à l'intérieur de ses limites. Et donc, effectivement, accomplir un perfectionnement, mais qui est à l'intérieur de ses limites. Mais cela ne veut pas dire qu'Aristote pense la réalité comme étant cloisonnée entre des essences séparées et différentes. Il y a une continuité tout de même. Alors, cela nous conduit à la deuxième, au deuxième point, mais qu'est-ce qu'alors est politique? Ce n'est pas sur le terrain de la biologie que on peut définir l'homme. L'homme est un zoon comme les autres. On a vu que déjà dans l'histoire des animaux, Aristote a parlé du fait que le fait de vivre en communauté, d'être politikoi, si vous voulez, est quelque chose de caractéristique de l'homme, mais pas seulement. D'ailleurs, ça pose problème lorsqu'on va analyser ce que politikon veut dire. Pas seulement, parce qu'il y a aussi les abeilles et les fourmis qui ont cette caractéristique d'être de politikoi, donc de vivre comme des zoa politika. Donc, en tout cas, sur le terrain de la biologie, on ne va pas pouvoir trouver ce qui fait la spécificité de l'homme, mais c'est sur le terrain plutôt de l'éthique et de la politique que Aristote, comme je vous ai anticipé en vous donnant déjà la fin de l'histoire, que Aristote va pouvoir identifier, si on peut dire comme ça, les propres de l'homme. Mais ce n'est pas si simple, parce que là aussi, il y a une certaine ambiguïté qui règne. Donc, si l'expression d'animal politique ou de zoon politikon est utilisée pour définir une classe d'animés bien plus large que celle des humains, comme les abeilles, les fourmis, les grues, etc., cela veut dire que cette expression en soi reste, même dans son entièreté, même pour son aspect de politikon, reste soumise à une certaine ambiguïté. Autrement dit, il faut l'analyser pour mieux comprendre. Alors ici, il y a trois textes que je vais surtout utiliser et je vais associer ce texte que je vous ai déjà cité de l'histoire des animaux à deux autres textes d'Aristote qui viennent du traité sur que on a nommé les politiques. traité très vaste et très complexe, très intéressant, bon, que je vous détaille pas ici. Mais c'est là que, tout au début de ce traité, dans le livre 1 au chapitre 2, Aristote affirme que l'homme est un animal politique. Mais, je continue à utiliser cette expression, même si elle n'est pas correcte, animal politique, mais parce qu'elle est entrée dans les mœurs, hein, mais bon, c'est plutôt un animé politique. Et, mais, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, bon, je vais les laisser, et puis, comme ça, vous aurez le temps de les lire pendant que je parle. Dans ce contexte, vous savez, comme ça, faire deux choses à la fois, nous sommes déjà un peu augmentés, comme ça, on verra si nous les sommes déjà ou pas. Donc, dans ce contexte, Aristote va souligner un petit détail, c'est juste un petit, hein, qui se trouve à un moment donné de ce texte, vers le milieu, je dirais, ou vers la fin, mais en tout cas, il va dire, l'homme est un animé politique plus que, en utilisant la verbe malon en grec, n'importe quelle abeille et n'importe quel animal grégaire. Hein. Donc, il y a ce plus que qui est intéressant. Et on va le voir. Et alors, encore un texte sur lequel je vais revenir, qui est toujours extrait des politiques, mais cette fois-ci, c'est le livre 8 au chapitre 9, où Aristote dit que, c'est là qu'il fait intervenir le Logos, étant donné la présence en lui du Logos, pour l'homme, vivre en zoon politikon implique non seulement le fait de vivre dans les mêmes lieux que ses semblables et de collaborer avec eux à une œuvre commune, mais aussi de viser avec eux et pour lui-même une vie bonne, faite de prudence et de vertu. Dans ces deux derniers cas, politique 1-2 et politique 8-9, l'homme est donc un zoon politikon qui se distingue clairement des grues et des fourmis. Alors, allons un peu plus précisément dans les détails de ces deux textes, politique 1-2 et politique 8-9, où il y a ces éléments qui sont mis en évidence. Premier élément, l'homme est plus politique que les autres zoa, les autres animés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, plus politique que les autres animés? Alors, certains spécialistes ont dit, Aristote voulait là utiliser une métaphore. Donc, le terme politique va être réservé à l'homme, mais Aristote l'utilise parce que il en a besoin, comme dans l'histoire des animaux, il nous l'a montré. Et c'est ici, dans les politiques, il va dire, va comprendre que c'était métaphorique. Mais si l'essence est métaphorique, pourquoi Aristote aurait dû insister sur la comparaison? Si l'essence est métaphorique, il n'avait pas besoin de dire que l'homme est plus politikon que les autres animés. Or, c'est bien cela qu'il fait. Et cette affirmation plus que est loin d'être anodine. Alors, dans les textes que vous voyez là, il y a la première chose qui est, donc ça serait peut-être intéressant de les lire, mais je crains de ne pas avoir le temps. Donc, la première chose que ce texte va dire est le fait que la dimension du politikon, dans ce contexte en tout cas, montre que l'homme qui ne reconnaît pas comme sienne propre cette dimension politique, donc qui n'aurait pas conscience de cette dimension politique et qui ne la vivrait pas, serait comme un dégradé, donc inférieur aux autres animés, étant sans loi, sans vertu et en état de guerre permanent avec ses semblables. Ce sont ces trois éléments qu'il utilise. Sans loi, sans vertu et en état de guerre permanent. Ce sont les contraires de la vie politique. Donc, soit il serait ça, soit il serait tel un dieu autosuffisant et mortel qui vivrait parfaitement en autarcie. Donc, il y a deux possibilités. L'homme qui n'est pas politique peut soit être dénaturé par le bas, parce qu'il vit comme une bête, ou dénaturé par le haut, parce qu'il est comme un dieu. Mais dans les deux cas, s'il n'accepte pas cette dimension politique, Alors, cela veut dire qu'il n'est pas lui-même, qu'il n'est pas correspondant à sa nature. Alors, être moins qu'une bête, donc plus... finalement, l'expérience nous dit que c'est possible. Aristote le voyait, d'ailleurs, dans l'Éthique à Nicomaque, il va dire l'intempérance est vraiment ce qui est la caractéristique de l'homme. L'animal n'est pas intempérant. Il ne peut pas tomber plus bas que sa nature. L'homme le peut. Et être comme un dieu, c'est impossible. Parce que l'homme est limité par son corps, par toute une série de choses, par sa finitude. Être comme Dieu, il ne le pourra pas. Donc, s'il n'accepte pas cette dimension politique, il est dénaturé. Donc, on comprend bien que dire que l'homme est plus politique que les autres animaux signifie pour Aristote insister sur cet aspect-là. C'est que l'homme doit assumer cette dimension politique, alors que l'animal, les autres animés, peuvent vivre cette dimension politique qui leur appartient par nature. Simplement, les grues et les abeilles vivent en communauté. Ils n'ont pas le problème de, éventuellement, ne pas assumer cette dimension politique. Ils ne peuvent pas. Elles meurent tout de suite s'ils le font. Et ils ne le font pas, d'ailleurs. L'expérience nous dit qu'elles ne le font pas. L'homme, l'expérience nous dit qu'il peut faire la guerre. Donc, ça veut dire qu'il peut se séparer de cette dimension. Mais alors, le thème de Politique 8 va nous faire faire un pas un peu plus loin. Parce que dans Politique 8, qu'est-ce qu'il va dire, Aristote? Il va ajouter... Hein, je voulais citer que l'homme est un homme politikon parce qu'il possède les logos. Et quand il dit cela, Aristote ne va pas insister sur le caractère de l'intelligence contemplative, mais va dire l'homme est doté du logos. Hein, il dit ceci, tel est le caractère distinctif de l'homme en face de tous les autres animaux. Seul il perçoit, c'est comme ça qu'il explique la possession du logos, les biens et les mals, les justes et l'injuste, et les autres valeurs. Non, ça c'est encore le texte que je vous ai cité là, mais dans les Politiques 9, il va reprendre cette idée-là. Donc, seul il perçoit les biens et les mals, les justes et l'injuste, et les autres valeurs. Or, c'est la possession commune de ces valeurs qui fait la famille et la cité. Et dans Politique 8-9, il va insister sur le fait que ce caractère-là politique est attribué à l'homme parce qu'il possède le logos. Et qu'est-ce que serait ce logos? Hein, qu'est-ce que c'est, au fond, ce logos? C'est justement cette capacité délibérative qui permet à l'homme de se situer par rapport au bien au mal, de réaliser une œuvre qui a de la valeur, qui lui permet de, notamment l'œuvre qui a de la valeur, c'est de pratiquement réaliser la justice. Donc de connaître le bien, de séparer les justes de l'injuste, et, dit Aristote, de savoir ce qui est avantageux et ce qui est nuisible. Donc la caractéristique, ok. La caractéristique de ce zoon politikon qui est l'homme est donc celle d'avoir les logos, voilà, résumé. Donc, si on résume, donc, l'homme est un zoon politikon parce qu'il est doté des logos, parce qu'il est capable de délibération, parce qu'il est capable de distinguer les justes et l'injuste, parce qu'il est capable de distinguer les nuisibles des avantageux. Mais, attention, c'est sans doute ce qui est, donc, je résume un peu, je vais essayer de me retrouver. Donc, c'est ce logos, mais qui est décrit par Aristote suivant ces caractéristiques-là, et donc qui est un logos, on pourrait dire, une intelligence pratique qui permet de choisir et de bien choisir, fait que l'homme doit assumer son caractère de politikon pour pas seulement vivre en collectivité, mais pour vivre bien en collectivité, c'est-à-dire participer à une œuvre commune, mais qui est l'œuvre du bien. Et donc, cette dimension éthique et politique est inscrite dans sa nature, et c'est cette dimension politique et éthique, cette capacité de reconnaître le bien du mal et tout ce qui va avec, et donc dans le cadre de cette action pratique et politique, qui fait la spécificité de l'homme. Et je dirais, c'est pas un caractère qui est attribué à l'homme d'une manière essentialiste. C'est plutôt quelque chose qui est qui surgit aussi de la constatation d'une expérience. Mais il y a un point qui est important et que je vais souligner juste avant de conclure, c'est que cette capacité logique qui est attribuée à l'homme et qui lui permet de dépasser les limites même qui lui sont assignées dans l'ordre naturel par les hauts, parce qu'il peut se perfectionner dans la vertu, et par les bas, hein, au cas où il choisirait mal. Hein, donc, cette capacité logique lui permet de devenir vertueux et donc de se perfectionner, de s'améliorer, comporte comme l'autre face la possibilité de l'échec. Donc, c'est clair que la description de cette nature attribuée à l'homme, l'homme est spécifié par cette capacité qu'il a de se perfectionner en choisissant les biens et en vivant suivant la prudence et la vertu, mais par le fait même que l'homme est spécifié par cela, on lui est accordé d'une certaine manière, par nature aussi, la possibilité de l'échec. Et donc, la définition de l'homme comme zoon politikon va faire en sorte que, me semble-t-il, ça c'est ma lecture, que Aristote inscrit, enfin pas que la mienne, donc je m'inspire de Martha Nussbaum qui a beaucoup travaillé ces questions. Aristote a voulu inscrire dans la définition de la nature humaine non seulement les capacités logiques, délibératives, réflexives et intellectives, mais aussi la vulnérabilité. Donc dans la dimension éthique et politique de son exister, l'homme est intrinsèquement vulnérable. La vulnérabilité est aussi, comme le politique, un élément qui fait que si l'homme ne l'assume pas, il est dénaturé. Comme les dieux par le haut, parce que les dieux sont invulnérables, et comme les bêtes par le bas, parce que les bêtes sont d'une certaine manière invulnérables, parce qu'elles suivent le processus de leur nature. Ce n'est pas, elles ne vont pas faire le mal pour faire le mal. Elles ne peuvent pas choisir, elles suivent leur instinct naturel. Elles peuvent se tromper par mauvaise représentation, mais elles ne vont pas aller dans la direction d'un choix pour le bien et pour le mal. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que dans cette définition de la nature humaine, Aristote affirme la vulnérabilité comme ce qui accompagne, comme l'autre face hein, de la description politique de l'homme, qui est une description extrêmement intéressante, accompagne cette face brillante de l'homme, pas comme sa face sombre, mais comme la face qui rend possible la face brillante. Donc la vulnérabilité ne peut pas être considérée comme ce qui doit être éliminé pour que l'homme puisse se perfectionner ou s'améliorer, mais comme ce qui doit être accueilli pour que l'homme puisse se perfectionner. C'est parce que l'homme est ce qu'il est, et il a cette dimension éthique, et il peut choisir le bien qu'il peut se perfectionner. Mais s'il peut choisir le bien, c'est parce qu'il est vulnérable. Alors, je vous l'avais dit, donc les détours par la partie sur les mouvements, je les laisse, il est extrêmement intéressant, mais on n'a pas le temps. Donc je les résume, mais pas, sinon je vais déborder largement. Donc je vous avais préparé une petite image avec à nouveau l'automate d'Héphaïstos. Et cela parce que la question du mouvement portait sur l'action. Et au fond, là aussi, on voit que ce qui est caractéristique de l'homme, c'est l'agir. Et l'agir porte en lui-même, je dis juste ça, la même fragilité ou la même vulnérabilité que nous avons vu dans ce que Aristote décrit à propos de zoon politikon. Donc, j'ai conclu. Si Aristote, j'espère que j'ai encore quelques minutes, si Aristote revenait, alors là je vais lire, mais j'ai plus qu'une petite page. Si Aristote revenait, qu'est-ce qu'il dirait? Me semble-t-il, bon, peut-être que je l'ai fait un peu à ma sauce, hein, j'espère qu'il ne va pas se retourner dans son tombeau. Mais si Aristote revenait, me semble-t-il qu'il répéterait que la vulnérabilité est un trait spécifique de l'humanité et qu'elle est intimement liée à ce qui fait le caractère distinctif de cette humanité, à savoir la présence du Logos et la capacité que est assignée à l'homme de pouvoir, donc que le Logos assigne à l'homme de pouvoir discerner les biens et les mal et de vivre en lien avec ses semblables en poursuivant le bien, donc de vivre bien. Il répéterait que l'homme ne pourra être, se dire heureux et l'être véritablement qu'en prenant en compte ces deux caractéristiques qui définissent sa nature. Être logique, c'est-à-dire un homme intelligent, pratique et vulnérable. Et si cela est vrai, alors il devient impossible, me semble-t-il, de penser que l'accomplissement de l'humain puisse se faire comme une amélioration du corps et de l'esprit qui éliminerait progressivement de son champ toute forme de vulnérabilité. Éliminer celle-ci revient en effet à détruire ce qu'on veut améliorer, l'homme. Et donc voilà la première chose peut-être que Aristote, au moins avec Aristote, je dirais, aux transhumanistes. De plus, parce que j'avais toute une conclusion. Si je vous avais parlé de la partie de l'automate, je vous dis juste ceci, que au fond il dirait par rapport à la possibilité de construire un automate humanoïde que l'automate ne pourra pas être un zoon, c'est-à-dire un vrai animé. C'est-à-dire que difficilement, en tout cas jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, il pourra avoir cette dimension politique qui lui permet d'éprouver, d'exprimer des sentiments de bien et de mal, c'est-à-dire d'aller au-delà peut-être des émotions. On construit des automates avec des émotions. On essaye de donner de la sensibilité aux prothèses qu'on construit, ce qui est extraordinaire. Mais ce n'est pas ça, distinguer les biens du mal. Hein? Et d'ailleurs, un gros problème pour la construction des voitures autonomes, c'est justement que c'est difficile de construire un algorithme qui puisse dire ce qu'il faut choisir lorsqu'on est dans une situation dilemmatique, alors que l'homme trouve toujours une solution. L'algorithme qui façonne l'intelligence de l'automate ne peut pas, ou du moins en l'état des choses, égaler le logos humain en ce qu'il a de plus propre pour Aristote, la capacité de discernement entre le bien et le mal. Alors, peut-être que Collodi avait raison. Si Aristote revenait, il dirait donc sans doute que Collodi avait raison à penser que la seule réalité capable d'humaniser un automate est l'intégration de la conscience morale et aussi d'indiquer que le chemin de cette humanisation ne peut passer que par l'accueil de sa propre vulnérabilité. C'est ce que Pinocchio fait, finalement. Pour Aristote, en effet, la conscience morale semble être ce qui permet à l'homme de se distinguer des autres oies et de vivre non seulement pour survivre, mais donc en se reproduisant et en se regroupant avec ses semblables. Attention, parfois, la société nous réduit à faire que ça. Hein. Je dis ça et je dis rien, mais je m'interroge moi-même. Mais la conscience morale qui est associée à la nature du logos, est faite pour bien vivre. Et c'est dans le perfectionnement de cette conscience morale et non dans l'augmentation de la structure biologique de l'homme qu'Aristote entrevoit la possibilité d'accomplissement de l'humain. Pour cela, cependant, le prix à payer est l'admission ou le fait d'admettre la vulnérabilité qu'Aristote inscrit, me semble-t-il, dans la nature humaine, en montrant qu'elle est avec les logos les traits distinctifs de l'homme par rapport à ce qui le limite par les bas, je l'ai déjà dit, l'animal et par les hauts. Selon Aristote, pour s'améliorer réellement, l'homme doit donc s'éteindre entre les deux. Et c'est seulement en approfondissant sa conscience morale dans le respect de cette nature intelligente et vulnérable qui lui est assignée que son amélioration pourra se réaliser, sans négation de sa chair ni de sa liberté. Et il pourra alors, l'homme, se dépasser autant qu'il lui est possible pour ressembler aux réalités plus hautes que lui. L'histoire de Pinocchio ainsi que les soutiens qu'Aristote lui a offerts, peut-être en l'inspirant, qui sait, n'ont pas perdu de leur actualité. Et c'est peut-être encore le chemin que ces histoires indiquent les vrais chemins de l'augmentation de l'humain. Certes, cela n'empêche pas aux technologies d'améliorer l'homme. Tout post-humain qui prendrait ce même chemin pourrait effectivement, s'il peut le faire, pourrait effectivement contribuer réellement alors à l'amélioration de l'homme. Mais peut-on effectivement penser ce qu'on vient de dire à propos d'Aristote et de Pinocchio et en même temps espérer de vivre 1000 ans? Est-ce que dans le fait de vouloir vivre 1000 ans, il n'y a pas déjà la volonté affichée de éliminer la vulnérabilité qui pourtant doit être comprise dans la définition de la nature pour que l'homme puisse réellement s'améliorer? Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette belle illustration de la fécondité du retour d'Aristote parmi nous, en particulier pour nous éclairer sur ce qui est à la source de ce désir des transhumanistes, montrant à la fois la manière dont Aristote nous aide à comprendre d'où vient ce qui les anime, et en même temps nous permet de prendre distance et de comprendre ce qui ne va pas, ce qui est destructeur dans ce mouvement. Donc il nous reste 45 minutes environ pour que vous puissiez poser des questions, voilà, pour lancer la discussion à partir de ce que Laura Rizzerio vient de nous proposer.
Donc, je dirais, en cela, je prends un peu, je m'inspire, enfin, ce qui a nourri ma réflexion en ce sens-là est vraiment le travail que Martha Nussbaum a fait sur Aristote, évidemment, dans son beau livre « La fragilité du bien ». Alors, à la fin, j'ai conclu en disant que si on cherche à augmenter l'humain en se débarrassant de la vulnérabilité, on détourne l'humain de son accomplissement. Donc, en ce sens-là, j'ai bien dit ça. Mais chez Aristote, j'ai essayé de l'expliquer, donc, mais c'est bien, la question est fort importante parce que ça me permet de le repréciser. Je dirais plutôt que la vulnérabilité est associée à la possibilité de l'échec. Alors, la possibilité de l'échec, c'est quoi? C'est que si l'homme peut s'accomplir en choisissant les biens, il lui est laissé, on dit souvent qu'il n'y a pas de liberté dans le monde grec, ce qui est vrai dans l'absolu, hein, pas la liberté comme nous la pensons aujourd'hui, mais il y a quand même la délibération. La délibération implique une évaluation et puis un choix. Et donc, dans le choix qui est accordé à l'homme, et dans ce jugement qui lui est accordé de choisir le bien ou de séparer le bien du mal, là, il y a la possibilité d'échouer. Donc, l'homme peut être intempérant, alors que l'animal ne le peut pas. Et c'est en cela qu'Aristote, que moi, je vois de la vulnérabilité introduite dans la définition même de ce que l'homme est. L'homme n'est pas comme l'animal, hein, donc, je ne l'ai pas dit dans mon exposé, mais parce que ça allait encore trop loin, mais Francis Wolff va dire que l'invention, enfin que l'animal est inventé par Aristote justement pour pouvoir montrer ce qui est ce que l'homme peut faire en se dépassant par les hauts et par les bas. Donc s'il y a un moment où Aristote a besoin de parler de l'animal, c'est justement pour dire il y a toute une partie de ces animés qui n'ont pas la possibilité de changer quoi que ce soit, donc de se dépasser par les hauts et par les bas. Et donc finalement ils sont pas soumis à l'échec. Alors que l'homme, puisqu'il se trouve entre les deux, et il peut effectivement s'améliorer pour ressembler aux dieux, mais il peut être aussi intempérant, et donc devenir pire que les bêtes, vivre sans loi, ni cité, ni famille. Il parle de l'homme qui vit sans famille, donc dans les politiques, et il dit cet homme-là est un homme qui ne veut pas s'instruire, qui ne connaît rien, c'est un homme qui vit absolument isolé, c'est impossible, donc il est complètement dénaturé. Eh bien, cet homme-là existe. Et là, pour Aristote, c'est, on pourrait dire, quelqu'un qui vit d'une très grande vulnérabilité, hein, parce qu'en plus il est isolé, il n'est pas instruit, etc. Effectivement, cet homme-là existe Et ça veut dire que la possibilité de l'échec, d'échouer au perfectionnement de soi, existe. Et c'est une possibilité réelle. C'est pas quelque chose qui est inventé, c'est que l'homme peut prendre, et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi l'homme choisirait d'aller contre son bonheur? Hein? Pour Socrate, c'était impossible. Pour Aristote, c'est possible. Oui, mais disons que ce qu'il me semble, oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a une différence. Mais ce qu'il me semble, c'est que, au fond, Aristote, mais donc je recherche sur ce thème-là. Donc, je suis très contente de pouvoir débattre avec vous parce que ça me fait vraiment avancer dans mes réflexions. Donc, ce que j'ai, qu'il me semble d'entrevoir chez Aristote comme précieux, c'est de dire la caractéristique humaine se situe au niveau vraiment donc c'est sa capacité d'intelligence, mais d'une intelligence pratique. Donc, toute amélioration de l'humain qui ne tiendrait pas compte de cet aspect en améliorant l'homme risquerait de ne pas réellement l'améliorer. Et quand je parle de la vulnérabilité, je veux dire, il me semble, mais maintenant le spécialiste est arrivé, peut-être qu'il pourra rectifier ma compréhension de... Il me semble qu'aujourd'hui, dans la volonté de l'augmentation de l'humain, de faire un homme, par exemple, qui est immortel, il y a... J'ai participé à un colloque cet été et je suis allée à un atelier où il y avait des transhumanistes français notamment, qui sont assez actifs. Et donc, il y a une intervention sur l'immortalité. Et vraiment, c'était quelque chose qui, pour la personne qui intervenait, allait se faire assez rapidement. Donc, il y a là, me semble-t-il, une sorte de hubris, dirait Aristote, qui veut absolument nier ce qui est la limite. Hein. Alors, bien sûr, j'ai parlé de la vulnérabilité morale, mais cette vulnérabilité détermine une limite. L'homme ne peut pas être immortel comme les dieux. Voilà ce qui est clair. Donc, cette vulnérabilité morale a aussi des conséquences pratiques sur... Donc, tout ce qui voudrait éliminer la mort irait contre les biens, d'une certaine manière. Donc, enfin, je ne sais pas comment dire, mais dénaturerait l'homme, d'une certaine manière. Ça serait un choix qui ne serait pas un choix bon pour sa nature. Mais je ne sais pas si j'ai répondu...
On va prendre les questions d'abord ici et ensuite.
Je vais être plus bref, comme ça vous pourrez plus facilement.
En fait, c'est exactement la même question.
Bien.
Parce que je trouve que le mot vulnérabilité.
Oui, je vous remercie parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ça me permet sans doute de mieux clarifier. Ça serait à clarifier. Dans une autre intervention, en tout cas dans une publication. Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi sur la définition de la vulnérabilité qui est la mienne aussi. Hein? Donc, c'est le fait d'être blessé. Et je suis d'accord avec vous aussi sur le fait qu'on pourrait vivre 200 ans et d'être vulnérable dans l'essence justement de cette possibilité d'être blessé, donc d'avoir, comme vous dites, hein, la vulnérabilité ouvre une intersubjectivité. Mais, donc, et c'était la fin, enfin, le diacre s'était mis à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, bon, ça m'avait fait réfléchir, c'est que je me demande, et je l'avais un peu dit entre les mots tout au début, est-ce que cette position, qui est celle, disons, de vaincre la mort, hein, projet de Google, vaincre la mort, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce projet, réellement, peut-on les réaliser en pensant ce que vous dites, enfin, en disant ce que vous dites, à savoir, peut-on réellement, est-ce qu'on les fait réellement, donc avoir cette volonté d'amélioration de l'homme et de le faire vivre 1000 ans, tout en poursuivant en même temps, avec détermination et en étant conscient que l'homme est vulnérable. Est-ce que c'est possible? Alors, la question, je n'ai pas de réponse. Je vous la pose et je n'ai pas de réponse. Si Aristote revenait, Oui, mais donc Aristote qui est là, je vous remercie pour votre intervention parce que Aristote qui est là dirait, mais vous êtes un disciple de Platon. Il dirait vraiment ça. Et donc je pense que effectivement ce que vous dites est ce que Platon a essayé de penser d'une certaine manière. Hein. Donc voilà, c'est pas une question de rêve transhumaniste là, c'est vraiment cette distinction, je dirais, entre la pensée d'une existence qui est une existence illimitée et spirituelle et la pensée d'une existence, et c'est ce que Aristote a essayé de penser, qui est peut-être d'une certaine manière immortelle, mais en tout cas dans laquelle Aristote a essayé de penser, peut-être avant la lettre, mais l'expérience. Et donc l'expérience nous fait prendre en compte nécessairement notre chair. Nous ne pouvons pas penser. Aristote disait « on ne pense pas sans image ». Et quand il disait « on ne pense pas sans image », il voulait dire « nous avons des représentations du réel qui nous viennent de l'expérience sensible, par exemple, de notre expérience affective. Et puis, ces expériences-là, nous les traduisons et nous pouvons donc abstraire de ces expériences des concepts et donc construire la science. Ou bien, nous pouvons et nous devons choisir pratiquement comment nous orienter. Et pour choisir pratiquement comment nous orienter, encore une fois, nous avons besoin de notre chair, de la situation dans laquelle nous vivons. Et donc, nous sommes constamment en contact avec les limites, qui sont les limites de notre existence incarnée. Et Platon ne pensait pas comme cela. Hein. Et donc, pour lui, il y avait tout un autre modèle, un modèle différent et peut-être un modèle, pour certains aspects, plus invulnérable. Donc, effectivement, immortel, hein, Platon pensait que, au terme de nos réincarnations, parce qu'il avait cet aspect dans sa philosophie, nous pourrions vivre éternellement comme, finalement, sortir du cycle de la réincarnation. Donc, comme des âmes qui, il donnait cette image qui est magnifique, comme des âmes qui ont des ailes. Et quand il a expliqué comment les ailes poussent à l'âme, il donnait une description extraordinaire que je vous conseille de lire. Ça se trouve dans le Phèdre. Et on dirait qu'il avait vu les dents pousser dans les bébés. Et donc, c'était vraiment la même douleur qu'il décrit. Hein, les ailes, mais alors, nous sommes des êtres d'esprit. Et ces êtres d'esprit ne sont pas des êtres de chair. Or, donc, quelque part invulnérables, mais avec toute la difficulté que si les anges qui sont là nous écoutent ont de s'incarner. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux film « Les ailes du désir ». Hein, c'est toute la problématique de la force de l'esprit, mais qui n'est pas incarnée. Et voilà. À la première, je dirais, il est vrai qu'Aristote pense que les femmes, je ne sais pas, je ne les mettrai pas dans les mêmes paquets, mais les enfants et les esclaves, oui. Hein, donc les esclaves ne sont pas vraiment des hommes. Il faut lire. C'est impressionnant de lire les premières pages du traité Les Politiques, là où Aristote parle des esclaves. Et c'est vrai que les esclaves ne sont pas considérés comme des hommes. Alors, bon, ça, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec Aristote. Évidemment, aujourd'hui, ça ne peut pas tenir une affirmation pareille. Mais ça se tient dans un contexte précis. Et donc, voilà, c'est comme ça. Donc là, je dirais, ce n'est pas une question de vulnérabilité. C'est exactement comme la même chose que pour d'autres vivants, d'autres animés pour lesquels... bon, c'est choquant pour nous, hein, mais dans ces contextes-là, c'est comme ça. Donc. Et les enfants, c'est parce que les enfants ne sont pas encore conscients. Donc je pense que les cas de l'enfant, là aussi, ça se comprend dans une certaine culture. Évidemment, l'enfant, dans une culture comme la culture grecque, n'a pas le même statut que l'enfant aujourd'hui. Enfin, il faut se souvenir qu'on exposait les enfants qui étaient handicapés parce qu'ils ne pouvaient pas... Enfin, c'était monstrueux. Donc, je veux dire, c'est ces contextes-là. On ne peut pas demander, effectivement, hein, quand on récupère les anciens, il faut les récupérer toujours mutatis mutandis. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas transposer facilement parce que ça fait partie d'un contexte culturel et social que ne peut pas. Mais donc, dans ces cas-là, je dirais la vulnérabilité est. J'ai essayé de montrer qu'à mon avis, la vulnérabilité, disons peut-être terme qu'il faudrait préciser, mais je suis assez d'accord de penser la vulnérabilité comme tout à la fois la possibilité de l'échec, la possibilité d'être blessé, donc tout ce qui comporte, disons au sens large, une très grande incertitude, donc une non-sécurité. C'est ça que, donc une non-sécurité veut dire la possibilité d'être blessé au sens large, donc la possibilité d'échouer dans le sens que si je suis blessé, d'une certaine manière, j'échoue dans la perfection. Et voilà, cette vulnérabilité, me semble-t-il, que Aristote l'inscrit dans la définition de la nature humaine. Après, il n'associe pas la nature humaine à l'esclave ni à l'enfant. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que la femme, je la mettrai dans un autre paquet. Parce que pour moi, quand il parle de la famille, par exemple, qui est pour lui la cellule qui constitue la cité, la femme est bien présente. Donc, il n'exclut pas la femme d'emblée de la possession du logos. Mais peut-être bien, l'esclave, pour lui, est comme un robot. Donc ça, c'est. Je ne sais pas si j'ai répondu à la première question, mais je dirais vraiment, je crois que. Il faut penser cette vulnérabilité comme la possibilité, vraiment la possibilité de d'être blessé, donc de d'échouer dans la tâche qui est celle d'être un homme. Et alors la deuxième question, c'était la question du chirurgien. Alors je dirais si je disons comme ça, si je devais vous répondre un peu comme ça, je dirais que là aussi, vous êtes dans un schéma très platonicien. Donc, Aristote ne pourrait pas accepter, justement parce que... Enfin, ne pourrait pas accepter, je veux dire. Bien sûr que toute aide technologique, elle est bienvenue. Hein, donc, si aujourd'hui, les chirurgiens peuvent aller beaucoup plus loin dans la réalisation, par exemple, la guérison de certaines maladies ou l'extraction de certains cancers, surtout les neurologues, c'est parce qu'ils utilisent des instruments très perfectionnés qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, moi, je ne suis pas contre les progrès, hein, donc je vous assure que du contraire. Et donc, bienvenue toute technologie qui peut améliorer la condition humaine. Mais, il y a un point sur lequel je pense qu'on pourrait intervenir, c'est de dire pour quelle raison ce chirurgien va dire j'utilise l'intelligence artificielle. Parce qu'il veut réellement que jamais plus l'échec lui arrive et que les malades meurent entre ses mains, ou parce qu'il veut se protéger de la responsabilité d'avoir causé la mort de quelqu'un. Alors, dans les premiers cas, effectivement, bienvenue la technologie, tant que mon désir est celui, effectivement, de rendre possible la sauvegarde de la vie à tout prix de quelqu'un, enfin, le plus possible. Si l'utilisation de la technologie est pour me mettre à l'abri d'un échec, parce que je ne supporte pas que ça puisse m'arriver, que en essayant de faire du bien, ça puisse mal se passer, eh bien là, je trouve que c'est une position plutôt sécuritaire, un peu comme Platon l'a imaginé. Il faut trouver des critères ou des mesures, des points de repère qui nous permettent de nous référer à ces points de repère pour être sûr que notre choix sera toujours juste. Et là, alors, je trouve que là, il n'y a pas réellement, dans cette prise de décision, j'ai recours à l'intelligence artificielle, une réelle prise en compte de sa propre vulnérabilité. Donc, je dirais, donc, de la possibilité de l'échec. Donc, je dirais que là, il y a peut-être quelque chose qui manque à l'accomplissement de l'humain. C'est un peu paradoxal, hein. Je répète, ça dépend de la raison profonde pour laquelle ce choix est opéré. Je vous dis ça parce que j'ai lu un livre que je vous conseille qui est magnifique. C'est le livre dont c'est mon fils qui fait des études de médecine qui m'a dit de le lire et je l'ai dévoré. C'est un livre d'un chirurgien, un neurochirurgien, qui écrit son expérience. Le livre s'intitule « Entre mes mains ». Et il raconte ses opérations. Et il raconte avec une simplicité, mais aussi une très grande humilité, la progression, comment est-ce qu'il a grandi en humanité au fur et à mesure de l'exercice de sa discipline et de sa neurochirurgie. Il raconte ses échecs et ses victoires. Et il raconte toute sa vulnérabilité. Et finalement, c'est la prise, l'acceptation du risque contenu de sa vulnérabilité qui lui a permis sans doute de sauver plus de vies que de celles qu'il a perdues. Mais ça l'a gardé, en tout cas, d'une humanité extraordinaire. Donc, ça lui a permis de traverser aussi tout le c'est un chirurgien anglais qui raconte aussi de tout ce qui est l'industrialisation de la médecine aujourd'hui et que ça lui a permis de traverser ça en étant, en restant humain tout en essayant. Donc, il utilisait des appareils très sophistiqués pour opérer. Hein, donc, ce n'est pas qu'il refusait la technologie. Mais l'intention avec laquelle il utilisait la technologie était toujours consciente de sa propre vulnérabilité, donc de la possibilité d'échouer. Ce qui lui est arrivé. Ah, qu'il a conscience, oui, plus que ça. Donc, pas seulement qu'il ne peut pas tout faire et tout vérifier, mais qu'il... qu'il doit, et je pense, c'est un peu comme ça que c'est vraiment la thèse fondamentale du livre de Martha Nussbaum, La fragilité du bien, où elle met en parallèle le modèle platonicien et le modèle aristotélicien. Et elle s'est dit, font le modèle aristotélicien, la sagesse pratique telle qu'il la propose, renoue avec toute la tradition de la tragédie grecque, qui avait comme but celle de mettre devant les yeux des gens d'une façon un peu trash, comme on dirait aujourd'hui, hein, c'est ce destin qui nous tombe dessus, quoi qu'on fasse. Pensez à Sophocle et à toutes les tragédies de Sophocle, mais aussi ce dilemme du choix, Antigone, quoi faire? Ce sont des situations dans lesquelles je suis confrontée à quelque chose que je ne peux pas, disons comme ça, rationaliser. Là, c'est vraiment dilemmatique. Le choix, qu'est-ce que je dois choisir? Et donc, Antigone choisit, mais elle se torture avant de choisir. Et finalement, elle choisit ce qui finalement va la perdre, c'est-à-dire ce qui va perdre son amant, qui va se suicider aussi. Donc, je veux dire, c'est toute une histoire tragique, et les tragiques mettent en avant, en fait, cette limite. Et la tragédie la mettait sous le couvert du destin, qui est finalement la limite. Et je me dis, voilà, pour revenir au transhumanisme et pour revenir aussi à la question que vous posiez, est-ce possible de conserver ce sens tragique tout en faisant de la recherche pour pouvoir, donc, qui va dans le sens donc, d'une amélioration infinie de l'homme? Comment peut-on dans un seul esprit, à la fois travailler à ce type de perfectionnement et conserver ce sens du tragique que nous considérons comme étant profondément humain et sans lesquels l'homme, quoi qu'on fasse, même si on lui met 45 prothèses, ne pourra pas réellement s'améliorer. Et c'est ça ma question. Et finalement, si je dois résumer ce que je vous ai dit, peut-être j'aurais pu dire que ça et ça aurait été plus simple, mais de dire si Aristote revenait, peut-être c'est ça qu'il dirait. Peut-on à la fois conserver cet esprit tragique, cette conscience du tragique de l'existence et œuvrer à améliorer l'humain jusqu'à plus soif, c'est-à-dire jusqu'à l'augmenter pour qu'il ne meure plus, il soit plus triste, il soit plus vaincu par personne, parce que tout lui réussisse, parce qu'il n'ait plus de choix dilemmatique et ainsi de suite. Et je n'ai pas de réponse à cette question. Ce n'est pas rhétorique, mais je me la pose. Et il me semble qu'Aristote nous la poserait comme ça s'il revenait. Et c'est ça que j'appelle, cette caractéristique tragique de l'existence, disons comme ça, que j'appelle la vulnérabilité. Il se manifeste sous toutes sortes de formes différentes, la pauvreté, l'exclusion, l'handicap, la maladie, les dilemmes dans les choix et ainsi de suite.
Y a-t-il encore quelques questions après cette question qui nous approche de la conclusion quand même? Oui.
Oui, bien sûr, mais là je pense qu'on n'a pas la même notion de vulnérabilité. Donc je reviens à cet esprit tragique auquel j'ai associé ce que j'ai appelé la vulnérabilité en partant d'Aristote. Parce que je pense que là, nous sommes dans les cas de figure où, par l'éducation, par l'amélioration, par la vertu, hein, c'est les termes que Aristote utilise, ce que je fais, je poursuis les biens et j'évite les mâles. Donc la lutte est contre les mâles, si on peut l'exprimer comme ça, c'est-à-dire contre ce qui n'est pas bien. Ou, si vous voulez, la lutte est pour l'affirmation du bien et donc pour éviter les mâles. Ça, oui. Et donc l'éducation qu'Aristote propose, tout ce qu'il dit autour de la vertu dans l'éthique à Nicomaque, il consacre quand même un gros traité, même plusieurs traités, parce qu'il y a au moins 3 éthiques chez Aristote, enfin, je veux dire plusieurs traités d'éthique. Bon, le plus connu et le plus important est l'éthique à Nicomaque, mais ce n'est pas les seuls. Et donc, en plus, probablement, l'éthique à Nicomaque était un traité qu'Aristote avait écrit pour instruire les législateurs afin que les législateurs puissent faire de bonnes lois. Donc, il y avait un but éducatif, mais même l'éducation des gouvernants, si vous voulez. Donc, c'est clair que Aristote passe autant de temps pour expliquer ce qu'est la vertu et comment l'obtenir, parce qu'il considère que l'éducation est fondamentale, justement pour améliorer la condition de l'homme. Mais cela ne limite pas la vulnérabilité et la recherche n'est pas dans cette élimination. Parce que c'est justement parce que l'homme peut s'améliorer en choisissant le bien qu'il va rester, d'une certaine manière, vulnérable. C'est-à-dire soumis à cette incertitude qui ne lui garantit pas, même s'il peut choisir le bien, qu'il le choisira à chaque coup, qui ne lui garantit pas de se soustraire à cet esprit tragique dont on a parlé. Donc, je dirais, la lutte d'Aristote est, si on peut l'appeler lutte, mais en tout cas l'engagement d'Aristote, est de tout faire pour que l'homme puisse s'accomplir en choisissant les biens. Et cet accomplissement en choisissant les biens n'est pas propre à l'homme seulement, mais il est propre à tous les vivants de la nature, parce que, comme je l'ai dit tout au début de l'intervention, chaque vivant qui a les caractéristiques propres est invité, enfin, je veux dire, est appelé, et dans le processus naturel, ça se fait naturellement, à s'accomplir en perfectionnant, en poursuivant les biens qui lui est propre. Donc l'abeille, en étant en communauté avec les autres, en faisant la ruche, la fourmi, la même chose. Et l'homme, en développant ses caractéristiques logiques qui le rendent un homme, comme j'ai expliqué, politikon, c'est-à-dire qui vit une œuvre commune avec ses semblables dans la visée du bien. Donc, c'est cela le bien qui est pour tous. Et cette poursuite du bien est le but de l'éducation, est le but de toute une vie. L'homme le poursuit d'une façon qui lui est propre. Et cela est fondamental. Et dans la poursuite de ce bien, l'homme fait l'expérience de sa propre condition soumise à l'incertitude, alors que les autres, l'abeille, la fourmi, la grue, les mulets et puis même les cochons, ne font pas la même expérience. C'est ça un peu qui est le propre d'Aristote, me semble-t-il. Et cela me semble vraiment intéressant dans la manière dont il les propose. Parce qu'il y a une lutte pour le bien, mais il y a une inscription de la... dans cette caractéristique humaine de la possibilité d'être blessé, donc de cet esprit, de cette incertitude, appelons-la comme ça, qui reste. Et alors, concernant ce que vous dites sur les voitures, c'est lié à ce que je viens de dire, eh bien, j'en suis pas tellement sûre que ce soit possible de résoudre ces dilemmes par un algorithme. Donc, là aussi, et puis j'arrête, je vous donne, parce que j'aime bien raconter les petites expériences, parce que ça parle plus que beaucoup de discours. Récemment, donc j'ai un de mes enfants fait des études de médecine, et le plus jeune a commencé des études d'ingénieur, et ils ont des cours d'éthique dans leur cursus. Et ces cours d'éthique sont une partie théorique, mais une partie pratique. Et alors un jour, en rentrant de son cours, il a commencé à parler et il m'a raconté ce qu'il avait fait. Enfin, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait en éthique? Et il m'a raconté. Donc, ils avaient un exercice pratique. Ils devaient construire, c'est des ingénieurs en puissance, une voiture. Donc, l'exemple, ils devaient se séparer et être pour ou contre. L'exemple, c'était la construction d'une voiture autonome. Et ils avaient justement résoudre ces dilemmes. Et alors, il me disait, ben, tu sais, maman, tout de suite, ça semblait si facile. Et puis, on a commencé à parler, et puis, maman, et finalement, moi, je me disais, ben, il n'y a pas une réponse. Et j'étais de plus en plus stressée, parce que les autres avaient l'air de dire que c'était facile de trouver une réponse. Mais pourquoi faut-il écraser un enfant plutôt qu'un malade? Et pourquoi faut-il écraser la malade plutôt que l'enfant? Et pourquoi, quelle est la valeur d'une vie? Et comment est-ce qu'on peut peser la valeur d'une vie? Et donc, au fur et à mesure de cet exercice, il s'était rendu compte, vrai exercice philosophique, que finalement, il y avait des problèmes en cascade et que ce qui semblait si simple ne l'était pas. Et donc là, je trouve qu'il avait fait, il était parvenu à saisir un peu que, de fait, trouver une réponse à ces questions, d'abord, n'est pas simple. Heureusement, pour un ingénieur, s'il s'en rend compte déjà quand il est jeune, bon, qu'il faudra bien en trouver une, mais qui est donc toute, même hein, la conscience que toute réponse que je peux donner est imparfaite, c'est d'une certaine manière, même dans la technologie, un certain accueil de l'imperfection, ce qui est peut-être important. Et donc, de ne pas confier à l'espérance, à la technologie, qu'il puisse résoudre tous nos problèmes. Parce que peut-être que ça, c'est détourner la technologie de son but aussi. Et donc, je crois que, voilà, le fait de même de poursuivre un travail d'amélioration, hein, de développement technologique, bon, je dis peut-être des choses qui sont tout à fait banales, là, mais évidemment fort important et sans discussion essentiel pour le progrès de notre civilisation, mais que peut-être il faudrait inscrire dans ce processus cette conscience de l'imperfection, d'une certaine manière. Pas aller dans l'espérance que cela puisse résoudre le problème qui est finalement le problème de l'humain et qui est finalement le problème d'un choix qui est compliqué et qui n'est pas qui ne peut jamais être fait indépendamment d'un risque, je dirais.
Bon, merci beaucoup encore Laura pour cette soirée. Merci à vous pour les questions, pour votre présence nombreuse.
Voilà. Vraiment, et puis, un grand merci.
Et puis, pour conclure, on peut vraiment vous inviter à lire non seulement Aristote, mais aussi à relire Pinocchio, puisqu'il y a une vraie sagesse dans cet ouvrage. Merci beaucoup.